Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence, Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Alors aujourd'hui dans l'émission Femmes en Lumière, j'ai le grand plaisir d'accueillir Julia Aetedi. Née de parents artistes hongrois, Julia se passionne pour la philosophie, pour les mots. Petite, elle ne veut pas vraiment être artiste comme ses parents. Elle veut juste être normale et avoir un travail comme tout le monde. Diplômée du CELSA, sa soif d'aventure l'emmène pourtant hors des sentiers battus. Elle vit une expérience de comédienne aux États-Unis sans l'avoir prévue. Défile comme mannequin pour Margiela et Jean-Paul Gaultier. Se passionne pour la photo et n'a que 18 ans quand elle monte ses propres expos. Elle acceptera à Paris un poste en CDI pour finalement se rendre à l'évidence. L'art, c'est sa vie. Elle devient donc ce qu'elle est, une artiste peintre pluridisciplinaire, curieuse, également entrepreneuse. Elle a toujours le cœur qui palpite et les sens en éveil. C'était une évidence pour nous de recevoir Julia Aetedi dans Femmes en Lumière. Bonjour Julia.
Bonjour Myriam.
Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
Merci, merci de me recevoir. Je suis hyper contente d'être ici.
Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Après ta présentation.
Après la mienne, exactement. Bah oui, parce qu'il y a tellement de choses à dire encore.
Ouais. Alors, en quelques mots, donc je suis franco-hongroise. Mes deux parents sont hongrois et j'ai eu la nationalité française à mes 18 ans par le droit du sol. Je vis actuellement à Paris et je travaille à Paris. J'expose donc, comme tu l'as mentionné, je suis peintre et j'expose à l'international, beaucoup en France et de plus en plus à l'international.
Ah, génial. Où ça?
Alors là, j'ai exposé à Londres, j'ai exposé à Shanghai. Et prochainement, je vais avoir plusieurs expos qui s'enchaînent à Paris et dans le sud de la France.
D'accord. Bon, alors on va voir un petit peu comment tu en es arrivée là. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire comment tu en arrives là?
Avec grand plaisir. Le chemin n'a pas été tout droit tracé. Et c'est vrai que petite, alors je dessinais souvent. Les après-midi, je les passais dans l'atelier de mes parents et les ateliers des artistes amis de mes parents. Donc je découvrais plusieurs disciplines comme la sculpture, la gravure, il y avait beaucoup de musiciens aussi. Donc j'étais entourée d'artistes, mais vraiment en tout genre. Et je découvrais plein de techniques très jeune.
Ouais, t'as vraiment baigné dedans, quoi. Vous viviez dans l'atelier?
On vivait, c'était un atelier logement d'ailleurs, ouais, donc ouais. Dans le 11e, ouais, on vivait dedans. Donc bon, il y avait tout, sorti, enfin, il y avait un coin lit et après ouais, il y avait tout le matériel de photos de mon père, les fonds, puis à l'ancienne, lui, il est de l'époque
de l'argentique.
De l'argentique, donc il y avait les fonds, les grandes chambres, il développait ses photos dans la salle de bain qu'il avait aménagée, donc on n'avait pas droit de rentrer. Voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs d'ouvrir la porte quand il fallait pas.
Et oui.
Et cet univers m'a bercé vraiment toute mon enfance. Et je me destinais pas forcément à faire comme mes parents parce que j'étais curieuse de découvrir autre chose et je voyais aussi le modèle des parents de mes amis qui étaient avocats, qui étaient profs, médecins. Des métiers où le matin il partait au travail et il revenait le soir et une nounou venait récupérer les enfants et j'avais beaucoup d'amis dans ce cas de figure là et c'est vrai que j'étais un peu intriguée de savoir comment ça se passait quand on vit dans ce type de famille parce que moi mes parents étaient omniprésents étant donné qu'ils étaient là ils étaient sur leur lieu de travail donc quand je rentrais de l'école ou qu'ils venaient me chercher enfin ils étaient là. Et je pense que cette curiosité, elle m'a amenée à explorer beaucoup de choses. Tu l'as mentionné au début dans la présentation. Donc, j'ai été à Los Angeles. J'ai eu une expérience dans le théâtre et le cinéma. Et une expérience dans le cinéma qui s'est prolongée aussi en France. C'est des propositions. En fait, ça a toujours été des rencontres.
Ouais, c'est ça. Parce qu'au départ, donc, tu intègres Hippocagne, Cagne, voilà, t'es diplômée du CELSA, et donc c'est dans le cadre d'un voyage d'études en fait que tu pars à Los Angeles aux États-Unis.
Exactement.
Et là.
Et là. Donc en master 2, on me propose, le CELSA me propose cet échange à Long Beach University. Donc j'ai dit okay, c'est où? Los Angeles, très bien. Et c'est vrai qu'on avait, c'est une opportunité formidable. Je me suis dit, il faut absolument pas manquer ça. Ok, j'y vais. Il reste une place, très bien. Donc j'ai fait mon dossier, passé le TOEFL, enfin voilà. Et donc je débarque là-bas dans un campus et c'est vraiment comme dans les films. T'as des Starbucks, des McDo, des restos.
C'est des villes entières.
Des villes entières, exactement. Donc je débarque là-dedans, un peu paumée, en me disant ok, donc moi qui a l'habitude des petites structures, tu vois, des petites classes, etc. Mais c'était comme un monde nouveau et en fait sur le campus, je pense qu'il y a un prof qui m'entend parler français, donc il vient me voir, qui me dit bonjour, je m'appelle Hugh, je suis professeur dans le secteur des arts et théâtre. J'ai entendu parler français, ma femme est française, qu'est-ce que tu fais là? Donc on commence à sympathiser comme ça et au fur et à mesure, il m'invite à assister à ses classes. Bon, je lui dis en l'occurrence, moi je suis là pour le marketing, la communication, je dois valider mon semestre, etc. C'est pour mon master. Et il me dit, mais viens par curiosité, viens voir. Et donc, j'y vais. J'étais assez curieuse. Et puis en fait, quand t'es à l'étranger, je trouve que t'as plus cette barrière et ces filtres que tu te mets, tu sais, dans ton pays d'origine, où bon, t'oses moins, là, j'étais là, bon,
on se limite pas, quoi, voilà, ça se présente, allez, on y va.
Exactement. Et donc, je me retrouve à assister à un de ces cours, ça me plaît, j'ai des crédits, parce que là-bas, c'était des units donc qu'il fallait valider, donc j'avais tout validé en marketing et communication, et donc je me suis dit, bah très bien, je vais faire acting for film and acting for stage avec lui, et m'amuser. Et donc je me retrouve dans ces classes, c'était 3 heures et 3 heures, donc 6 heures en tout par semaine. Là je me fais deux très très bonnes amies que j'ai gardées, qui étaient de Los Angeles et l'autre était allemande.
Et donc tu te retrouves à faire du théâtre, à partir comme ça en tournée à travers les États-Unis pour jouer des pièces.
J'ai été par la suite castée pour une pièce de théâtre qui s'appelle Private Lives de Noel Coward, qui est une pièce assez connue et un classique comme
incroyable.
Ici. Ouais. Tout, enfin, si je te le raconte en accéléré, je suis allée au casting, j'avais pas de voiture, on m'a emmenée, j'avais pas le permis et j'ai été prise au casting et là en fait tout a été compliqué parce que j'ai pas le droit d'être rémunérée. En étant étudiante, fallait trouver un système de bourse, etc. Et deuxièmement, j'avais pas le permis, donc il fallait que je le passe.
Ok, donc t'as passé ton permis?
J'ai passé en deux semaines. On m'a prêté une voiture. Enfin, tout a été...
Tu devais être là, quoi.
Ouais.
Ça devait se faire, exactement. En fait. C'est que tout s'est passé de façon hyper hyper fluide, incroyable. Donc, ça a duré combien de temps, cette aventure de comédienne
Eh ben, figure-toi que pendant 2 mois, on a fait une représentation tous les soirs et 2 fois par jour le week-end.
Incroyable.
Donc c'était hyper intense. Ouais. En vrai, c'était hyper intense.
Voilà, c'est comme une vraie activité, un vrai métier en soi, quoi. Incroyable. Et alors le mannequinat, ça sort d'où?
Ça, pareil. C'est une rencontre dans le métro. J'avais 16 ans et il y a une directrice de casting qui vient me voir et qui me dit ça te dirait d'essayer des vêtements? Bah, je lui dis et c'est rémunéré? Carrément. Pour qui? Quand? Et en fait, on s'est très, très bien entendu. J'avais 16 ans
à ce moment-là. Ah ouais, 16 ans. Ouais, t'étais toute jeunette.
Et mes parents me faisaient confiance, c'est-à-dire que j'avais vraiment la tête sur les épaules et il y avait pas cette inquiétude de leur part. Enfin, même si je savais pas forcément où je mettais les pieds. Évidemment, j'ai vu tout l'envers du décor de la mode, mais
c'est-à-dire?
Il y a plein de dérives. Enfin, c'est pendant les castings, il y a aussi les voyages organisés pour les mannequins, etc. Les soirées en boîte organisées, enfin tout ça. Bon, ça m'intéressait vraiment pas. Moi, c'est vrai que j'ai plus vu le côté indépendance financière qui m'a intéressée, et puis aussi le côté création et créateur, d'entrer dans l'univers de designers avec leur mood board affiché sur les murs, avec leur univers de création, les entendre échanger. Moi, c'est vraiment ça qui m'a plu.
Donc, t'as réussi quand même à te mettre à distance de toutes ces dérives potentielles grâce à... C'est quoi? C'est une attitude? C'est une conscience aussi peut-être? Une forme de lucidité? Je le vois venir?
Ouais, je pense.
Et donc voilà, et je parviens à mettre à l'écart.
Ouais, une intuition.
Évidence quand on a 16 ans, hein, de réussir à prendre cette distance-là quand on, ben voilà, quand on tout d'un coup gravite dans des milieux.
Ouais, mais je sentais, enfin c'était vraiment intuitif. Je sentais que ça m'allait pas, quoi. Qu'il y a des choses où j'étais pas ok, et ça me plaisait pas. Donc j'ai très vite fait la part des choses. C'est-à-dire qu'évidemment il y en a qui faisaient tout à fond les soirées, etc. Mais comment veux-tu le lendemain être super fraîche pour un shooting photo, pour un défilé, si la veille t'as bu 15 coupes de champagne, que t'as fait la fête et que tu t'es couché à 4 heures du mat, ça fait pas sens.
Ok, donc il y avait quand même. Alors peut-être que ce qui t'a protégé aussi, c'est ta conscience professionnelle d'une certaine façon, ton envie de bien faire, parce qu'on voit que vraiment quand tu t'engages dans les choses, c'est toujours voilà, t'es toujours à la recherche de quelque chose de précis, de juste, de toujours être au plus près de ce que tu fais, et donc bah probablement que ça a pu t'aider aussi à
complètement
à te préserver. C'est intéressant. Alors tu es d'une curiosité insatiable, Julia. C'est aussi un peu ce que tu disais, voilà, je suis curieuse. Donc tu touches à tout, tu as touché à beaucoup de choses. Quelles sont les différentes pratiques artistiques qui sont les tiennes, et quelles ont été tes tentatives les plus folles
en termes artistiques?
Ouais,
d'essai. Ah, mais tentatives,
parce que c'est intéressant comme question.
Non, là, je pensais, en fait, quand tu me poses cette question, moi, je pense plutôt à des rêves que j'ai.
Ah, bah, vas-y.
Qui sont complètement fous.
Bah, vas-y aussi. Enfin, non, mais après, tu peux aussi nous partager, parce que je sais que t'as fait plein de trucs. Alors, déjà, donc, il y a la peinture, il y a le dessin, il y a l'écriture, il y a la photo, il y a la terre.
Exact.
Enfin,
oui.
Je te laisse.
Bien sûr. Alors, c'est vrai que j'ai fait un truc un peu fou. C'est que, au tout début, on va dire, quand je me suis lancée vraiment dans cette carrière artistique, et que j'ai décidé, où je me suis dit, je vais en vivre, c'est fait pour moi, en fait, faut que j'accepte ma destinée. J'ai une envie d'imprimer des photos sur du marbre.
Normal.
Hyper simple.
Tiens, j'ai une envie, écoutez. Tiens, j'ai envie, je vais imprimer des photos sur du marbre, j'adore.
En fait, mes photos, je les prenais avec un appareil et je les transformais en version dessin, c'est-à-dire que je faisais ressortir les contrastes. Je les transformais en noir et blanc et c'est uniquement les contrastes que j'imprimais. Et en fait, le challenge, ça a été de trouver un imprimeur qui accepte de faire ça.
C'est ça.
Parce que c'était un peu périlleux et surtout, alors j'ai le meilleur ami de mon mari à une imprimerie à Chamonix, et donc je lui en ai parlé, je lui ai dit écoute, j'ai ce projet là, est-ce que ça te tente qu'on teste? Alors bon, il me dit ok, pourquoi pas, j'ai jamais fait, mais faisons-le. Et je lui ai envoyé quelques plaques de marbre pour faire des tests. Là, évidemment, quelques-unes de ces buses d'imprimantes ont cassé. Donc il y avait toute une phase de bon, c'est
de recherche,
en plus c'est une imprimante hyper rare, hyper précieuse.
Et comme par hasard, il l'avait, lui.
Ouais.
Non mais c'est ça qui est comme, c'est ça qui est quand même fou. C'est-à-dire que comme par hasard, sur un projet complètement dingue, tiens, je vais imprimer sur des plaques de marbre. T'as le pote de ton mari qui, comme par hasard,
c'est
a l'équipement. Non mais c'est fou quoi. Non, c'est fou. Et alors on va. Tu nous as parlé des rêves un peu fous que tu aurais. Tu vas nous partager ça dans quelques instants. D'ici là, on va faire une première pause musicale et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Julia a été dit artiste peintre entrepreneuse et notre femme en lumière du jour. Alors Julia, juste avant la pause, tu nous disais donc avoir eu cette idée folle d'imprimer sur du marbre tes dessins. Donc il a fallu aller chercher les plaques, le matériau, je crois en Italie. Enfin voilà, ça t'a emmené
à Carrare. Ouais.
À Carrare, waouh.
Ouais, c'était ouais. Des expéditions à chaque fois. Incroyable. Et j'avais un bébé. Avec moi.
Bien évidemment, avec le bébé, ça tu vas nous raconter aussi comment ça se passe quand on est maman, voilà. Et mais je voulais juste revenir sur, parce que je te demandais quelles étaient les pratiques, les tentatives les plus folles, et là tu nous disais j'ai aussi des rêves encore un peu fous, j'ai pas fini.
Ouais,
ça serait quoi là?
Tu vois, là j'ai un rêve que j'ai vraiment envie de réaliser, c'est de peindre sur une montgolfière.
Ah oui. D'accord. Donc là, ça veut dire sur c'est quoi? C'est de la toile.
C'est de la toile. Oui, c'est une toile spéciale. Mais tu vois, en fait, j'ai toute une réflexion sur les supports. Donc ouais. Je peins sur des toiles, voilà, que j'expose, encadrées. C'est des toiles en coton ou en lin. J'ai commencé à peindre sur des murs. Donc c'est des fresques murales. Hein, on parle pas de graphes non autorisés. Enfin, c'est vraiment dans le cadre de collaboration avec des marques, des entreprises, etc. J'ai plutôt fait en intérieur, mais j'adorerais faire en extérieur aussi. Et donc ce questionnement sur les supports, tu vois, m'a amené. J'ai quelque chose avec en fait la montgolfière et par extension la toile d'un bateau aussi. Ça, je sais que c'est plus faisable parce que j'ai déjà vu que ça a été fait. Mais alors peindre sur une montgolfière, j'ai jamais vu ça et j'aimerais trop.
Oh, génial. Bon, mais j'y crois à fond. T'es tellement capable, ça, je suis sûre que... Ok, bah, à suivre. On va poursuivre ces aventures, voir un petit peu où ça te mène et où ça nous mène aussi.
Bien sûr.
C'est quoi? C'est l'idée que le sens voyage?
Alors, l'élément R est quelque chose qui me fait un peu peur. Tu vois, j'ai jamais fait de parachute, voilà, j'aimerais bien dépasser cette peur. J'ai jamais fait de montgolfière.
T'as le vertige?
J'ai un peu le vertige, ouais. Mais c'est quelque chose qui me fascine de voler, tu vois. Donc, dans l'avion, ça va, je me sens hyper en sécurité. Mais c'est plus le fait d'être en chute libre ou, tu vois, bon, après la montgolfière, je sais que c'est autre chose. Mais c'est plus, pour moi, le voyage en montgolfière, rejoint une idée de temporalité lente, douce. Ça rejoint cette envie ça rejoint cette idée de démarche lente dans ma pratique artistique, d'observation, de méditation, de prendre tout ce qui dans notre environnement nous fait du bien. Et je pense que ça passe par le temps lent. L'observation. Et c'est pour ça que la montgolfière symbolise quelque chose d'assez spécial pour moi.
Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai maintenant que tu le dis. Ce côté, on prend le temps. Et en effet, on n'a pas encore vraiment parlé de comment on peut définir ton art, parce que là, on parle de ta création, de tes créations. On commence à en parler un peu, mais c'est vrai que on n'a pas vraiment défini. Et c'est vrai que donner à entendre ce que normalement on est censé voir,
bien sûr,
pas forcément évident.
Oui.
Donc on est sur c'est de l'art abstrait déjà. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire.
Tout à fait. Donc je peins avec des pigments dilués à plat sur le sol. Ces pigments, en fait, ils viennent se déposer sur la toile sous forme, avec des formes organiques de traces, de tracés. Et en fait, ça crée des compositions, c'est toi d'ailleurs qui me le disais en venant à mon atelier, assez fragmentées.
Oui, absolument.
C'est des compositions qui, en fait, vont matérialiser des émotions ressenties face à des mouvements dans la nature.
Oui, c'est ça.
Et pour aller un peu plus loin, pour donner des exemples pour que les auditeurs puissent un peu s'imaginer, c'est par exemple la façon dont le vent caresse la surface d'un lac qui est tout lisse, la façon dont une feuille va dégringoler d'un arbre, la danse qu'elle va poursuivre dans l'air jusqu'à tomber sur le sol, les nuées d'oiseaux, les chorégraphies dessinées par les oiseaux dans le ciel. Et là, on revient sur l'élément air. En fait, chez moi... Ça déclenche à chaque fois des sensations très fortes et des émotions. Et c'est ce que j'essaye de traduire sur mes toiles.
Oui. Alors, t'as une patte, du coup, tout à fait reconnaissable aujourd'hui, avec ces teintes très douces, ces couleurs très pastel, beaucoup de rose, beaucoup d'ocre. Comment est-ce qu'elle est née, cette patte, en fait?
Elle est née par des recherches. Alors les couleurs, je les choisis souvent en fonction de mes émotions, de mon envie, de ce vers quoi je suis attirée. C'est très instinctif aussi et intuitif. Je pense comme mon rapport à la vie. Et tout simplement par recherche, par envie. Qu'est-ce qui m'attire sur le moment? Alors j'ai des périodes où il y a plus de bleu, plus de vert, et ça évolue assez dans le temps. Mais c'est vrai que ma palette est reconnaissable.
Oui. Ouais, carrément, je confirme. Alors, tu as pas mal hésité, en fait, avant de te lancer, c'est ce qu'on entendait un peu tout à l'heure, avant de te lancer vraiment et de considérer ta démarche artistique, en fait, comme potentiellement une activité professionnelle, rémunératrice, à part entière, parce que tu disais que tes parents, étaient artistes même, mais bon, pas forcément avec la manne qui pouvait...
Ils avaient pas cette fibre communicationnelle,
ouais,
c'est-à-dire
c'est
que et c'est pour ça que j'ai fait des études de communication marketing, parce que je me suis dit quoi que je fasse, la communication me sera utile et il faut savoir communiquer.
Voilà. D'accord. Et donc quel a été le déclic? À quel moment tu t'es dit vraiment non mais c'est bon, avocate, le CDI, se lever le matin à 9h, entrer à 17h, enfin 18h, enfin à quel moment tu t'es dit non mais
Alors, quand j'ai terminé mes voyages et que je suis rentrée à Paris, j'ai pris un job en CDI. J'étais directrice artistique junior dans une boîte de publicité communication.
Oui, une agence de pub, ouais.
En CDI, donc j'avais ces horaires-là. Et je sentais que y avait un fossé entre moi, les autres, le fonctionnement. Enfin, tu sais, une fois que t'as terminé ton travail, bah souvent t'as des réunions qui se répètent, qui se, tu sais pas où tu vas, à quoi ça sert, etc. Enfin, c'est-à-dire que j'ai vite compris. J'étais très curieuse, encore une fois, de découvrir cet univers-là, et ça m'a beaucoup apporté. Je le souligne parce que ça m'a apporté, enfin, la rigueur, apprendre à travailler avec les autres, aussi les process, de comprendre que les autres ont besoin de plus de temps. Enfin, tout ça, c'est hyper important de l'expérimenter, je pense, aussi même quand tu travailles t'es entrepreneur, parce que tu travailles quand même avec d'autres personnes. Mmh. Et en fait, j'ai rencontré mon mari et je suis tombée enceinte tout de suite. Et là, du coup, en fait, à la maternité, en donnant naissance à ma première fille, j'ai eu vraiment ce déclic avec la maternité, de me dire, mais en fait, je vais pas attendre d'avoir 40 ans, de faire une crise, de me dire, oh, je suis dans la mauvaise voie, pourquoi j'ai pas suivi mon instinct. Et c'est comme si j'avais eu une révélation ou une espèce de prise de conscience ultra lucide, de me dire, bon, en fait, t'es vraiment faite pour être artiste, mais il y avait cette peur chez moi, parce que justement on parlait de mes parents qui ils ont toujours été très heureux, mais ça a été parfois difficile financièrement pour eux, parce que justement ils n'étaient pas dans cette démarche commerciale de se vendre, de contacter, oui, de démarcher, etc. Business, ouais. Et donc je me suis dit, bah moi je veux pas être comme ça, parce que moi ça me rendra malheureuse. Mais à un moment donné je me suis dit, mais en fait je peux très bien le faire autrement et choisir ma propre façon de le faire.
Et voilà. Sauf que c'est quand même paradoxal d'attendre, enfin, c'est pas attendre, parce que t'as pas attendu vraiment, mais le fait d'avoir ton premier enfant, c'est plutôt un moment justement où on a envie de sécuriser les choses. Tu vois, c'est un peu, c'est ça que je trouve complètement fou. C'est que, au contraire, là, toi, tu te dis, oh, ben en fait le CDI ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire du tout. Alors qu'au contraire, tu vois, n'importe qui se dirait, ben voilà, pour le moment c'est la sécurité, on assure le truc, les horaires, le truc bien réglé, et puis les velléités d'artiste, on verra plus tard. Comment, où est-ce que tu trouves le courage à ce moment-là?
Alors je pense
d'oser
que
d'y aller, quoi.
Je pense qu'il y avait peut-être une part d'inconscience. Enfin, j'avoue que je me suis pas dit du tout, oh mon Dieu, instabilité financière. Je me suis pas dit ça. Je me suis plutôt dit, attention à ce que tu vas transmettre à tes enfants. Et est-ce que tu as envie de transmettre, enfin, d'être une maman, pas forcément heureuse dans ton travail, mais qui a choisi la sécurité, nanana, ou bien est-ce que tu veux être une maman qui est fière de faire ce qu'elle fait, qui poursuit ses rêves. Certes, c'est difficile. Certes, c'est pas forcément stable financièrement, mais elle est hyper, une maman qui est bien dans ses baskets et qui sait pourquoi elle fait ça.
Mmh. Ouais, donc il y avait ce qui t'a motivé au fond, c'est vraiment plus une histoire de transmission quelque part.
Exactement.
Ouais. C'est par l'exemple, par mon exemple, leur montrer que ce qui est important, c'est avant toute chose, c'est de s'écouter, quoi.
Bien sûr, et je pense que les vibrations, tu sais, les vibrations, les émotions, les petits le sentent. Ils le sentent si t'es pas bien dans ton travail, si t'es pas bien dans ta peau, si t'es pas bien dans ta vie de femme. Et je pense que, enfin, je vois ça comme un devoir. Et en plus, je suis maman de deux filles. Donc, pour moi, c'était vraiment un devoir aussi.
Pourquoi tu dis « en plus, je suis maman de deux filles »
parce que je vois ça, enfin, être maman de deux filles, pour moi, c'est différent forcément que d'être maman de deux garçons. Enfin, c'est-à-dire que t'as quand même une mission, évidemment. T'as forcément une mission.
C'est-à-dire.
Mais je pense que tu élèves des garçons différemment que des filles. Malheureusement, je suis navrée de le dire, mais.
Donc, c'est quoi la mission là par rapport à tes filles?
Bah, qu'elles se sentent libres, de leur montrer que on est des femmes libres, indépendantes financièrement, que il faut poursuivre nos rêves, un peu casser ce schéma qu'on a pu hériter. Je parle de nos grands-parents, pas de nos parents, puisque nos parents sont quand même plus modernes, mais c'est vrai qu'on a des modèles dans notre famille de grands-parents où la femme est était à la maison. Elle s'occupait du foyer. L'homme allait travailler. Oui. Et bon, voilà.
Encore des schémas
archaïques
à déconstruire. Enfin, ouais. En tout cas.
Ok.
Bon, on va continuer à parler de ce thème-là, de cette thématique-là, parce que bien évidemment, elle nous passionne. Merci beaucoup, Julia. On va faire une deuxième pause musicale et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Said I know where. Sky has open doors and I go there, leaving all behind out of nowhere. Everything is back to one way ticket, but I'm always coming back. I believe we can make a new day, and I swear I have seen when the covers away, eyes that care for you. And I know it's easier to hide going with the flow. Said I know where sky has open doors and I go there, leaving all behind out of nowhere. Everything is back, a one-way ticket, but I'm always coming back. I believe there's an unknown way, and I swear I have seen when the clouds hang gray and eyes don't stare. And oh, and I know, tell you how to think, what to say or do. Yeah, yeah. Oh no. I know. Yes, I know. Easier to hide going with the flow. Said I know where sky has open doors and I go there, leaving all behind out of nowhere. Everything is back to one way ticket, but I'm always coming back. I'm always coming back. I'm always coming back, yeah.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Julia a été dit artiste peintre, entrepreneuse, est notre femme en lumière du jour. Et alors Julia, au Centre Pompidou à Paris, les femmes constituent à peine plus de 18% des artistes représentés. On est quand même à 40% pour les artistes nés après 70. Mais bon. Quel constat fais-tu, toi, en tant qu'artiste femme?
Alors, très sincèrement, je trouve qu'on a quand même beaucoup plus de place. Enfin, quand on regarde des expositions collectives engagées par des structures publiques, il y a quand même de plus en plus de femmes, et ça c'est je trouve que c'est vraiment hyper positif et c'est une avancée. Évidemment, en fait, moi ce qui me choque beaucoup, c'est le prix des œuvres qui varie énormément d'un artiste homme à une artiste femme, de même niveau, de même âge, de même pratique. Si on prend par exemple la peinture, une peinture abstraite, parfois il y a des artistes qui hommes qui sont 30%, 40% plus chers qu'une femme qui va avoir le même âge, la même expérience. Et ça, c'est choquant.
C'est ça le delta, 30%, 40%, c'est énorme.
Ça va dépendre, mais oui, j'ai déjà constaté ça. Oui, bien sûr. Ouais.
Donc la cote aussi est supérieure quand on est un homme?
J'ai l'impression.
Ouais.
Okay. J'ai l'impression, et je pense que ça doit encore évoluer. Enfin, je vois pas la raison, en fait.
Alors comment on fait? Ouais, tu vois pas la raison, toi.
Enfin, je veux dire, une femme peut être aussi talentueuse qu'un homme. Enfin, ça.
Mais bien sûr, ça dans l'absolu. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a, tu vois, chez les galeristes, est-ce qu'il y a, tu vois, c'est quoi, c'est une perception. C'est parce que eux, les galeries sont elles-mêmes tenues par des hommes et que du coup, il y a, enfin, d'où ça vient?
Moi, je pense que c'est un concours de plusieurs circonstances. Oui, il y a beaucoup de galeristes hommes, mais il y en a aussi, enfin, c'est aussi des femmes maintenant. On va dire que les plus grosses galeries sont tenues par des hommes. Je pense qu'en fait, les artistes hommes ont moins de peur, moins de jugement, moins de filtre de se mettre en avant, d'afficher un prix très élevé. Ouais. Je pense qu'ils ont moins de filtre, alors qu'une femme va se poser plus de questions, va avoir le syndrome de l'imposteur, de se dire « bon, attends, c'est quand même un peu cher ».
C'est ça, si elle ne coche pas toutes les cases, elle va pas y aller du tout, du tout, alors que l'homme va pas se poser la même question. Ouais, ça, c'est voilà. Hein. Donc c'est là qu'on voit en fait les conséquences de tous ces conditionnements, et puis parfois même inconscients en fait. Alors ma question, c'était comment faire pour que ça change. Et justement, je trouve que c'est en ça aussi que je trouve que ton parcours est hyper intéressant quand tu nous dis justement, ben moi j'ai eu envie d'appréhender ma démarche artistique, non pas juste comme simplement une démarche de création et voilà, je vis ma vie d'artiste, mais aussi comme une démarche en fait d'entrepreneuse. Avec toute cette dimension business attenante, et moi je suis scotchée de voir à quel point voilà toutes tes coms sont hyper léchées, à quel point enfin voilà on voit que c'est un travail quoi. Alors bien sûr les photos tout ça, alors t'es bien lotie parce que tu as aussi l'œil et les compétences pour ça, mais il faut quand même savoir aussi s'inscrire dans cette logique-là, business, de savoir se vendre quoi et communiquer.
C'est hyper important en fait. T'as beau être talentueux, il y a tellement d'artistes talentueux que si tu te démarques pas, évidemment que c'est quelqu'un d'autre qui va passer devant toi. Donc après, c'est pas forcément ma logique. Ma logique, elle est plus de me dire oui, ok. Donc l'idée, c'est quand même de vendre mes œuvres pour que je puisse payer mon loyer, payer les frais de scolarité de mes enfants, etc. Et comment je fais pour y parvenir? Donc c'est la visibilité. Donc il faut que je sois visible sur les réseaux, que je me fasse connaître auprès de nouvelles personnes, etc. Et en ce sens-là, oui, moi je mets en place des plans de communication sur Instagram, sur LinkedIn. J'écris beaucoup sur des sujets qui me tiennent énormément à cœur. Donc je vais parler de ma pratique de différentes façons, notamment sur LinkedIn où je vais expliquer pourquoi je fais des collaborations, pourquoi je travaille avec des marques. Ça va un peu plus loin que de vendre juste une œuvre à un collectionneur. Enfin, il y a ça. Mais je pense qu'il faut aussi considérer tout le panel de possibilités qu'a un artiste. C'est-à-dire, tu peux faire des collabs avec des marques. Donc, par exemple, pour un packaging ou pour un événement, peindre un mur ou peindre un vêtement. Enfin, il y a tellement de possibilités que je pense qu'il faut pas se fermer des portes, parce que je te parlais des supports tout à l'heure. Ouais, et je trouve que c'est hyper intéressant, en fait, d'investir différents supports. Parce que chaque support aussi a sa façon d'exprimer quelque chose,
une idée. Raconte, bien sûr, de véhiculer aussi l'idée. Donc en effet, hein, toi, t'as pas peur du tout de tu peux passer du mini format à la fresque murale, effectivement. Et du coup, comment tu démarches en fait? Comment tu t'y prends? Parce que là, tu viens en une phrase d'évoquer plein de choses,
plein d'aspects,
plein d'aspects,
c'est complexe, bien sûr,
plein d'aspects différents, et on sent qu'en fait tu sais aller tirer les ficelles. Comment tu t'y prends en fait?
Alors j'ai plusieurs, il y a plusieurs axes. En fait, je te parlais des marques. Il y a certaines marques dont je partage les valeurs. Tu vois, il y a deux sujets sur lesquels je suis assez engagée. Ce sont les droits des femmes et l'océan, la protection de l'environnement. Et c'est des valeurs en fait. C'est des sujets qui me tiennent à cœur. Pour plusieurs raisons, parce que j'ai été sensibilisée très petite. Je t'évoquais que donc je suis une femme, maman de deux filles, donc les droits des femmes, c'est hyper important pour moi.
Elles ont quel âge?
Elles ont actuellement donc 7 et 5 et demi.
Ouais.
La deuxième va avoir bientôt 6. Elles ont très peu d'écart. J'ai été sensibilisée très jeune en fait à l'histoire des femmes, à celles qui se sont battues pour qu'on puisse avoir plus de droits. Et ça m'a profondément marqué. Donc c'est des engagements en fait que quand je les retrouve chez des marques, bah là je me dis ça fait sens. Il faut absolument que je les contacte pour qu'on fasse quelque chose ensemble, parce que je pense que mon art peut apporter quelque chose à leur discours et vice versa, c'est-à-dire qu'on peut mutuellement construire quelque chose de beau. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et ça, c'est aussi une façon de donner voix, de donner sens à des actions. Et je pense que l'art, il a aussi cette vocation, au-delà du beau,
bien
porter
sûr. Alors
des
on va,
messages.
On va en parler, bah bien sûr, hein, ça, on va en parler de la fonction de l'art hein, à tes yeux aussi, parce que t'as ta perception. Donc ok, donc en fait, tu vas identifier les marques avec lesquelles tu partages les mêmes valeurs. Tu vas aller toquer à la porte.
Voilà, je démarche sur LinkedIn, j'envoie des mails, direct. Sur Insta.
Et ça marche en fait, ça apporte ses fruits.
La plupart du temps, oui, parce que j'ai effectivement bien ciblé, que ça fait sens et donc ouais, ça débouche. Alors souvent les discussions sont plus longues parce que peut-être que leur principe, enfin leur méthode de fonctionnement, de validation, tu sais, t'as plein d'étapes, etc. Mais même si ça débouche pas sur une collab concrète tout de suite, c'est des discussions qui sur le long terme débouche toujours sur quelque chose.
Ouais, il y a eu un échange, t'as planté une petite graine et donc alors tu peux te retrouver à faire quoi alors concrètement, parce que là ce qu'on entend c'est que finalement tu vis pas simplement de la vente de tes œuvres. Enfin à proprement parler, je peins une toile et je vais l'exposer et je la vends, c'est pas juste ça. T'as complètement ouvert le champ des possibles et donc ça peut être un packaging, ça peut être une fresque dans un lieu, par exemple dans une entreprise, dans une comment on dit la salle d'accueil par exemple, un hall.
J'en ai réalisé une pour SingulArt, donc qui est une plateforme de vente en ligne, une galerie en ligne. L'idée c'était d'incarner leurs valeurs. Tourner vers des artistes multidisciplinaires partout dans le monde, donc il y a vraiment cet aspect internet très international, très divers.
Et divers.
Et c'était pour leur nouveau bureau quand ils ont emménagé rue de Rivoli. J'ai aussi fait ça dans le cadre de performance. Donc
oui,
ça c'est de l'éphémère.
Je voulais. Ouais. Donc tu parlais de peindre en direct aussi en live quoi.
Ouais, exactement. Ouais.
Incroyable.
Ouais, à chaque fois ça me fait flipper parce que je me dis mon Dieu, je me plante, etc. Mais en fait, au fur et à mesure, je me suis détendue en me disant que quoi qu'il se passe, ça fait partie du process. Donc même s'il y a un accident ou quelque chose qui va pas comme je le souhaiterais, ça fait partie du process et c'est pas grave. Enfin, c'est-à-dire que j'essaie de me détacher du côté.
Quel lâcher prise.
Tout lisse, tout parfait. Enfin, je pense que c'est plus intéressant justement de montrer un peu les failles ou dans le process. Oui, l'accident peut arriver. D'autant plus que moi, dans mes œuvres et dans ma façon, dans ma gestuelle, j'intègre ces accidents. Tu sais, quand tu trempes le pinceau dans un pot de peinture et que le temps que ton geste, que ta main porte le pinceau vers la toile, il arrive que des gouttes tombent. Et ces gouttes-là, je ne les efface pas de mes toiles. Elles sont présentes. Donc c'est des accidents. Enfin, c'est parfois ça peut être aussi la façon dont le sol est incliné. Tu sais, moi, le sol de mon atelier n'est pas forcément droit. Et comme je peins des peintures avec des peintures très diluées, ben il arrive que en fait.
Et puis tu pars à plat.
Ouais,
au départ.
Exactement, sur le sol et que les pigments aillent se loger vers un coin de la toile.
Oui, parce qu'il a glissé et qu'il a été porté par la gravité.
Exactement. Ouais. Tout ça, je l'intègre.
Donc tu composes, ouais, tu vois, c'est intéressant la philosophie en fait qu'il y a derrière. C'est vrai. Tu vois, c'est une super une super philosophie, tu vois, de se dire composer avec ce qui est.
Ben oui, je
avec,
pense que
avec ce qui est
plutôt
là.
Que de lutter et plutôt que de se dire, enfin, de tenter de dénaturer. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans ma démarche.
Oui, de garder
faire avec ce qu'on a,
avec
en
ce
fait.
Qu'il y a. Ouais, ouais. Faire avec ce qu'il y a et avec ce qui est.
Et c'est pour ça que je peins aussi souvent en extérieur pour expérimenter ce que ça fait que de peindre avec le vent, avec la pluie, avec le sable. Hein, j'ai fait tout ça cet été.
C'est okay.
Et c'est hyper intéressant.
Bah ouais, de peindre sur la plage,
ouais.
En forêt.
C'est pas facile.
En forêt, ouais, j'imagine.
Dans une forêt de pins avec, tu sais, les épines.
Les petits, ouais, ce qui viennent se planter sur le, ouais, ça doit être assez rigolo. D'accord. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, c'est hyper intéressant aussi de donner à entendre, que on peut vivre sa vie d'artiste, en ayant aussi cette notion de comment je fais vivre mon art de plein de façons, plein de façons différentes, de plein de façons possibles. Et donc tu nous disais tout à l'heure que tu es particulièrement sensible donc à la protection des océans, ainsi qu'aux droits des femmes. Alors, comment cette sensibilité, mais surtout comment la féminité notamment, peut-elle se traduire dans une œuvre?
Est-ce que ça, c'est une bonne question.
Et ouais, est-ce que l'art, tu vois, est-ce que l'art, ça peut être féminin?
Écoute, c'est une question, c'est une bonne question hyper intéressante et je pense très clivante aussi. Moi, je pense que oui. D'ailleurs, on m'a fait plusieurs fois la réflexion que mes œuvres étaient très féminines.
Ouais, on voit tout de suite que c'est une femme qui peint, quoi. C'est ça.
On me l'a dit. Alors, ouais. Je t'avoue que sur le moment, j'étais perplexe en me disant, bah tiens, ah ouais, on me l'avait jamais dit, mais ok. Et
bah, c'est la douceur, hein, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de tellement doux, apaisant, relaxant dans tes œuvres.
Oui, mais à la fois, t'as des femmes.
Ouais, pardon. Non, mais je t'en prie, mais voilà, ce sont des qualités malheureusement qu'on attribue.
Oui, c'est vrai.
Plus aux femmes.
Je suis d'accord, mais après, j'ai plein d'exemples de femmes qui ont une peinture assez violente, assez forte. Donc, c'est-à-dire que, bon, pour moi, quand on m'a fait cette réflexion, je me suis dit, ok, tu vois, c'est une femme qui cherchait une œuvre à offrir à son mari. Elle trouvait ça trop féminin pour lui. Elle cherchait quelque chose de masculin. Et ça a ouvert une discussion intéressante.
Ah ouais, c'est fou ça. Elle cherchait quelque chose de
plus masculin et ouais. Donc je lui ai montré des œuvres que je trouvais hyper masculines. Donc, et c'est une question d'interprétation aussi, c'est-à-dire que pour moi certaines faisaient plus masculin que d'autres et ouais, c'est une question très intéressante mais je pense que tu as raison. On peut interpréter mes œuvres comme assez féminines.
Oh, c'était une question, le regard qu'on porte sur ces qualités-là. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Bien, merci beaucoup, Julia. On va faire une dernière pause et on se retrouve juste après. À tout de suite.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Julia a été dit, artiste peintre, entrepreneuse, est notre femme en lumière du jour. Alors Julia, juste avant la pause, tu nous disais que on parlait de la féminité dans les œuvres, on parlait du féminin dans les œuvres. Tu nous disais à quel point tu étais sensible à la cause des femmes, aux droits des femmes. Et il y a aussi la protection des océans qui te touche tout particulièrement. Alors comment ça se traduit cet engagement ?
L'océan est un élément qui m'a aussi énormément fascinée depuis que je suis petite par sa force, par sa permanence. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à travailler avec un chercheur du CNRS sur l'océan et notamment lui, ce qu'il défend, c'est la capacité de l'océan à filtrer le CO2 et donc de le recycler. Donc il a écrit toute une thèse là-dessus et des bouquins. Et avec un discours hyper lucide et pas pessimiste. Moi, ce qui m'inquiétait un peu, c'est tous ces discours hyper alarmistes de dire ça va pas, le monde va mal, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants. Enfin, c'est hyper angoissant, je trouve, en tant que parent, quand on nous rabâche ça et de se dire ok, comment je vais expliquer ça à mes enfants. Et c'est aussi une façon de voir le monde en se disant oui, certes. Le réchauffement climatique est vraiment là, c'est un réel problème. Mais il y a des choses qu'on peut faire, notamment, en fait, si on préserve l'océan, si on fait vraiment attention, eh ben, on favorise tout naturellement l'océan à nous aider à recycler le CO2 que produisent les humains. Et donc, l'idée, on a commencé à travailler ensemble, en fait, dans le cadre d'une bourse. Une bourse qui s'appelle la bourse Atome de l'ADAGP qui récompense un duo artiste-scientifique pour justement une mise en lumière artistique de recherches récentes. Et donc en fait l'idée que j'avais eue c'était justement de me dire il faudrait que je peigne avec un élément océanique, qu'est-ce que ça pourrait être. Et en fait au fur et à mesure de mes recherches j'ai vu que à partir d'algues on pouvait créer des peintures et donc que ça ferait hyper sens justement. Donc là, on est l'année de l'océan aussi, donc il y a tout un tas de conférences, même actuellement, je crois que... Donc il y a tout un tas de conférences sur la thématique de l'océan Et donc, moi, ce qui me tenait à cœur, en fait, c'est de m'associer à des marques et à des entreprises qui favorisent ce discours, notamment en créant des fresques murales, en créant des ateliers aussi participatifs, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on peut sensibiliser.
D'accord.
Plus de personnes.
Donc adultes, enfants.
Exactement.
Ok. Et donc les algues, là, cette technique dont tu parlais. Donc c'est quoi ? C'est des algues séchées après dont on va se servir comme pigment. Enfin, c'est quoi le ?
Alors, c'est des pigments naturels, des pigments mélangés à des algues qui deviennent un peu comme un liant entre guillemets.
Ah d'accord.
C'est pas les algues ne sont pas transformées en pigments, mais c'est un liant qui permet, enfin, de créer des peintures en fait hyper respectueuses de la nature. Alors, la question, ça reste la durabilité de la peinture. J'ai pas du tout de recul pour dire que c'est une peinture durable.
Ouais. Est-ce que ça va tenir?
Voilà, oui, c'est
exactement.
Ça.
Est-ce que ça va tenir dans le temps? Ouais. Ouais, c'est, voilà, c'est super intéressant de voir aussi comment, justement, l'art permet aussi ça, de faire passer des messages forts. Est-ce qu'il y a un aspect justement de ton métier que tu affectionnes tout particulièrement au-delà du fait de créer, bien sûr?
C'est une bonne question. Moi, j'aime beaucoup construire mes portfolios. Et c'est une satisfaction immense, en fait, quand j'ai terminé. Je peins toujours par série, donc ça veut dire plusieurs toiles en même temps qui vont constituer un corpus d'œuvres. Et c'est une grande satisfaction. Je m'occupe de mes photos, de l'édition, de la mise en page, etc. Et enfin, c'est vraiment une satisfaction à la fin de quand j'ai terminé une série de la mettre en page dans un portfolio, de l'imprimer, de pouvoir le partager comme ça.
Ouais, donc c'est la diffusion, le partage aussi, les rencontres que ça va générer, j'imagine.
Ouais.
Parce qu'on sent que t'es hyper à l'aise avec le fait de partager, en fait, d'échanger.
Mais c'est important.
Autour.
C'est ça aussi. Alors, ça me fait immensément peur parce que, évidemment, je me dis, oh là là, et si ça ne plaît pas, et si c'est mal reçu, et si. Évidemment, tout ça, c'est présent, mais c'est, enfin, on se construit en tant qu'artiste aussi par le regard de l'autre et qui est porté sur notre œuvre. Et même si c'est une part très intime de nous-mêmes, c'est très très important de se confronter au regard, aux critiques.
Alors, en parlant de regard des autres, moi personnellement, je trouve qu'il y a une poésie vraiment particulière dans tes œuvres, et on perçoit, donc voilà, je te l'avais déjà dit, comme une sorte de fragmentation de l'univers. Moi, ça me fait vraiment penser à ça, une sorte de genèse, une sorte de chaos, pourtant harmonieux. Mmh. Tu vois, un jeu de déséquilibre et qui pourtant s'équilibre.
Oui, c'est vrai que
d'où ça vient. Enfin, moi, ça me fait penser, tu vois,
d'où vient cette composition.
Ouais.
Ou cette. Je pense que c'est sincèrement mon langage, ma façon de mon rapport au monde qui se traduit visuellement de cette façon. Et alors, avant toi, je n'avais pas rencontré, personne qui m'avait parlé de fragmentation. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, une de mes œuvres s'appelle Fragments Célestes. C'est une œuvre qui est composée de 9 toiles.
Ah bah, tu vois, voilà. Parce que c'est ce que j'allais te dire. Moi, ça me fait penser à l'infiniment petit,
ouais,
comme à l'infiniment grand, en fait.
Alors, ce jeu des échelles, c'est quelque chose qui...
On a l'impression de voir une cellule au microscope, ouais, et à la fois un bing-bang, tu vois.
Mais alors ça, c'est au cœur de ma pratique. C'est l'infiniment grand, l'infiniment petit m'intéresse autant de faire un zoom sur une feuille, sur un fragment d'eau, un fragment de roche. Enfin, tout le minéral m'inspire, tout ce qui est dans la nature m'inspire. Et là, tu as absolument raison. Je pense que mes toiles sont des compositions d'échelle. Et c'est vraiment un jeu. Et actuellement, ma prochaine série qui sera exposée, c'est du macro zoom.
Ok. Donc qui sera exposé ou qui est exposé en ce moment?
Qui est exposé en ce moment.
Donc qui est exposé, ouais, en ce moment, donc le mois de septembre jusqu'à à peu près la fin du mois. Donc c'est Porte B.
Porte B dans le 10e arrondissement.
Porte B dans le 10e arrondissement. Donc là, franchement, voilà, faut vraiment y aller parce que non seulement c'est des œuvres originales, mais aussi c'est des œuvres qui font du bien à regarder. En tout cas, voilà, je sais pas si ça aura un rapport avec ta série Joie. Est-ce que ça sera...
C'est la continuité.
Un peu, ouais, un peu dans
c'est
cette...
C'est très différent.
Dans cette veine-là, mais très différent.
Ouais. Alors, ok. Un peu de teasing.
J'ai hâte d'aller voir ça. Alors, Julia, donc on est dans le début d'une nouvelle saison, c'est la rentrée, et donc dans ce nouveau format que nous avons pour cette année, c'est le moment de notre interview surprise, alors que j'ai appelé Fragment Invisible. Est-ce que t'es prête?
Je suis prête.
T'es prête? Bien, première question. Quel est l'objet de ton atelier qui a l'histoire la plus folle ou la plus improbable? T'as une minute pour répondre.
Ok, alors j'ai un rouleau de toile qui a une histoire complètement improbable parce que je figure-toi que je l'ai découpé en à peu près 8 morceaux de toile pour en faire enfin des œuvres et les tendre ensuite sur châssis, mais ces toiles-là, je les ai enroulées dans un tube afin que je voyage avec pour pouvoir les peindre pendant mes déplacements.
D'accord, sauf donc que... tu balades avec ton tube de toile.
Oui, non, mais sauf que ce tube-là, malheureusement, je l'ai oublié chez moi. J'ai demandé à ma mère de me l'envoyer et que ce tube n'est jamais, jamais, jamais arrivé.
Il s'est perdu?
Oui, voilà, il s'est perdu.
Avec l'étoile dedans.
Exact.
Trop dommage, à savoir. Ah, les aventures d'étoiles perdues. Bien, si on te proposait, deuxième question, de vivre dans un tableau, ce serait lequel?
Waouh, je pense que ce serait un tableau de Van Gogh. Alors lequel? J'ai pas exactement le titre en tête, mais tu vois celui où il y a des tournesols et une nuit.
Bah les tournesols.
Ouais, ouais. Ok.
C'est les tournesols. Voilà, c'est ça. Ok. Alors troisième question, si tu pouvais glisser un mot dans l'oreille de ton mini moi à 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Ose.
Ouais. Si tu devais peindre le silence, ça ressemblerait à quoi?
Une vaste étendue bleue avec des petits fragments de pigments violets.
Ok. Et dernière question. Quel serait le titre du tableau que tu peindrais pour raconter qui tu es aujourd'hui?
Le titre du tableau... Waouh, ce serait permanence.
Merci. Merci beaucoup, Julia, de t'être prêtée à cette interview surprise.
Merci à toi.
Merci infiniment. Alors, notre émission touche à sa fin et pour la clôturer, nous avons deux rituels. Alors, premier rituel, bon, est-ce que tu veux bien nous partager ton livre fétiche ou ton livre coup de cœur du moment?
Alors, en ce moment, je suis en train de lire Puissance de la douceur d'Anne Dufour-Montel. Coup de cœur parce que c'est une bulle de douceur. Enfin, la lecture est aussi douce que les images évoquées. Ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien de s'endormir en lisant quelques pages de ce livre. Et je pense que tout le monde devrait le lire.
Donc c'est quoi? C'est un essai? C'est plutôt de la poétique?
C'est un essai. Ouais, c'est un essai donc sur la douceur. Et ça va vraiment au-delà de l'image qu'on s'en fait. Et pourquoi je pense que ce livre est important, c'est parce que dans ce monde, on manque un peu de douceur. Et c'est un essai, mais c'est très poétique et c'est transcendant.
Ouais. Et puis c'est raccord, ça fait écho aussi à ta démarche.
Ce qui me traverse complètement.
Exactement. De mettre de la joie, de la lumière et de la douceur dans ce monde de brut, comme dirait l'autre. On en a tellement, tellement besoin. Deuxième rituel, pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette femme lumineuse que tu es, Julia?
Eh ben, de peindre sur une montgolfière.
Souhaiter la montgolfière. Ok, écoute, on va te le souhaiter. Là, franchement, je vais suivre ça de près parce que je suis sûre que on verra un jour ou l'autre tes œuvres se promener à travers les nuages.
J'adore. Ouais. Je te tiendrai au courant, mais au-delà de ça, ce qu'on peut souhaiter, et d'ailleurs à toute artiste femme, c'est de pouvoir poursuivre sa voie, son engagement et de faire des rencontres justement qui vont nourrir ses engagements et cette trajectoire.
Ouais, et d'oser, voilà, saisir les opportunités qui se présentent. Ça, t'as su faire. Donc merci infiniment Julia pour ce partage merci tellement riche. On te souhaite le meilleur pour la suite, bien évidemment, un cœur palpitant et des sens toujours en éveil et de magnifiques créations. Notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière mardi prochain de 18h à 19h en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore merci, Julia.
Merci à toi.
À bientôt. À la semaine prochaine.